Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Un article, d'Émilie Dubreuil qui attire vraiment beaucoup l'attention, qui raconte l'histoire d'un professeur d'université, McGill, qui se dit victime de cancel culture. Là, vous avez peut-être vu ça passer depuis ce matin. C'est un peu partout sur les médias sociaux parce que, bon, pour avoir fait un documentaire sur le tribunal populaire, dès qu'on parle de culture de l'aliénation, ça attire l'attention. Les gens veulent savoir et avec raison là, parce que, bon, il y a cette idée de la peur de la censure qui plane là, depuis déjà quelques mois. Beaucoup de personnes qui s'interroge là-dessus, là, notamment dans la foulée du projet de loi 32 sur la liberté académique. On en a jasé beaucoup la semaine passée. On parle avec le docteur Martin Drapeau. Qui est ce prof en question, ce prof de l'Université McGill qui se dit victime de culture du bannissement? Monsieur Drapeau, bonjour.
Bonjour, madame.
Bon, quand même des termes forts là, qui sont utilisés dans ce texte-là d'Émilie Dubreuil, une journaliste quand même d'expérience que je respecte beaucoup. Là, un article qui semble fouillé, étoffé. On vous décrit comme un professeur en liberté d'enseignement, surveillé. Ce qu'on dit, c'est que vous avez été accusé de tous les maux pour avoir critiqué un projet de discrimination positive au sein du programme « Vous enseignez en psycho ». Expliquez-moi, M. Drapeau, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu dans votre département.
En fait, quand j'ai écrit mes textes, notamment les deux textes qui ont été publiés par Le Devoir, j'ai des collègues et des étudiants qui ont fait des appels à la censure, des appels à ce que je sois réprimandé. On a dit, moi, puis là, je vous invite, j'imagine que vous les avez lus, ces deux textes-là, dans Le Devoir.
Mais nos auditeurs ne les ont pas lus. Fait que rapidement, il était question de quoi dans ces textes-là?
En fait, les textes dénonçaient des procédures d'admission qui devaient être mises en place, qui étaient négociées pour favoriser une plus grande diversité dans notre programme, ce qui est une bonne chose en soi, sauf que la façon de faire était particulièrement curieuse. Ça impliquait notamment de poser des questions, pas dans un entretien ou par questionnaire pour obtenir des informations qui, à mon avis, sont très intimes, très personnelles. Par exemple, pour rendre compte d'une plus grande diversité de genre, parler de l'identité de genre des personnes ou d'une orientation sexuelle. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Ça ne me regarde absolument pas.
Ça vous mettait mal à l'aise que les étudiants soient questionnés là-dessus?
Je pense que ça se fait pas. Ça se fait pas dans un contexte où on est en position d'autorité, puis l'étudiant est conquis. Et puis, il peut y avoir des étudiants là-dedans aussi qui sont en questionnement. Imaginez ça poser la question.
Non, c'est bizarre, Monsieur Drapeau, mais c'est ça. Ma question étant la suivante, là, moi, j'ai pas eu accès à l'entièreté du sondage, mais comment cette question-là était posée? On demandait aux gens, faites-vous partie d'une diversité sexuelle? J'avoue que c'est bizarre. Là. Moi, si je voulais être acceptée quelque part, puis si on me demandait, es-tu hétéro, Geneviève, es-tu lesbienne, es-tu queer, es-tu non-binaire, je trouverais ça un peu trop d'informations.
Ouais, puis c'est ça, puis c'est la religion aussi. Je veux dire, forcément, il y a des qualités démographiques qui sont évidentes, la couleur de la peau. La religion, c'est plus subtil, à moins d'avoir un élément qui exprime l'adhésion d'une certaine religion, mais autrement, ça peut être très subtil. Donc, ça pouvait se faire, ce qui avait été proposé à ce moment-là, c'était par entretien. Donc, moi, encore une fois, je trouvais que c'était d'une part illégal, ça se fait pas, ça me regarde pas. Et puis, je me voyais très mal mettre des étudiants dans une position comme celle-là, absolument pas.
Fait que c'était pour être accepté dans une certaine branche du département de psycho?
Oui, c'est pour des programmes. En fait, moi, je relève de la psychologie du counseling, donc on a plusieurs programmes. C'est un système de pointage, comme on en a déjà. Pour les admissions, habituellement, ça se base sur, par exemple, l'expérience clinique, la performance dans les notes, les lettres de référence et tout ça. Là, on ajoutait ces éléments-là.
OK. Donc, je comprends que vous écrivez là-dessus et que là, suite à ces deux textes-là, vous recevez, entre guillemets, des critiques de la part de vos collègues et d'étudiants, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, sur la base de ces deux textes-là, on a demandé à ce que... En fait, on peut y mettre des critiques. J'ai même lancé l'invitation à mes collègues de discuter, de débattre de ces sujets-là. J'ai jamais eu de retour. Mais quand j'ai publié les deux textes, on m'a demandé... Enfin, on m'a demandé à ce que j'ai plus le droit de m'exprimer. Des étudiants ont demandé ça, mais aussi des profs, ce que je trouve très grave. On m'a accusé de promouvoir le colonialisme. On a dit, moi, que je suis contre l'équité, contre la diversité. Donc, de là, mais ça s'enchaîne. Hein.
Mais êtes-vous quelqu'un de raciste, M. Drapeau?
Non, ce que je disais, c'est que si on voulait plus de diversité, comme les francophones, comme les hommes, comme les Québécois, de façon générale, sont pas représentés dans nos programmes, d'autant plus qu'on est en pénurie, faut pas l'oublier, on est en pénurie de professionnels de la santé mentale au Québec.
Oui.
Ben peut-être qu'on devrait faire de la place pour ces gens-là aussi. Mais ça, quand on dit ça, encore une fois...
Ces gens-là étant?
Ben, des francophones, des Québécois notamment.
Oui, ben, je pense qu'il manque pas de place. Ben, je pense qu'il manque pas de place au Québec pour les hommes blancs francophones, ça, dans toutes les professions.
Non, on parle du programme d'admission pour les admissions au programme de psychologie de counseling. On a une faible minorité d'hommes, une faible minorité de francophones.
Vous expliquez
une faible minorité de Québécois aussi.
Mais vous expliquez ça comment? Parce que, tu sais, vous enseignez quand même à l'université McGill, c'est une université anglophone où on accueille beaucoup d'étudiants de plein de diasporas à travers le monde. Est-ce qu'on peut tout simplement pas se dire que c'est ça la raison puis qu'il n'y a pas comme d'agenda caché de la diversité?
Oui, je voulais pas de discrimination à ce niveau-là, mais si en plus on met en place des critères qui vont faire en sorte que ces gens-là, leurs chances d'être acceptés sont encore moindres, à ce moment-là, on en aura presque plus.
Mais on est un peu dans le même débat de qu'est-ce qu'on a vu à l'Université Laval, là, notamment sur une chaire de recherche qui relevait du gouvernement du Canada, quand on disait interdit aux hommes blancs. Puis moi, je regardais ça puis je disais, mais c'est pas qu'on veut pas d'hommes blancs, c'est qu'on veut laisser la chance à d'autres personnes d'y aller. Mais là, ce que vous me dites, vous, c'est que dans votre département, selon votre lecture, il y a moins de personnes blanches francophones qu'ailleurs.
Ben non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est que, par exemple, si on prend la question de l'Université Laval, c'est toujours la question de la population de référence. Donc, dans notre programme, il n'y en a pas d'hommes. Une cohorte de peut-être une vingtaine d'étudiants, ça va être un homme, peut-être deux hommes. Donc, si en plus, on se dit, on va pénaliser les hommes, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Donc, c'est pas pour faire place. Si on avait un programme où les femmes étaient sous-représentées, on pourrait certainement faire ça. Si on va au niveau de l'université de façon globale, les femmes sont effectivement sous-représentées. Mais c'est toujours notre point de comparatif qui est important. Donc, est-ce qu'on compare au niveau de l'université où les femmes sont sous-représentées ou est-ce qu'on compare dans mon programme où il n'y a pas d'hommes?
Non, et si je vous suis, donc là, vous écrivez ces lettres-là, là, il se passe tout ça. Vous, à ce moment-là, là, qu'est-ce que vous faites? Allez-vous voir votre administration en disant voici ce qui se passe? Parce que on s'entend que de la Bisbée puis du Basse-Carmarade dans des départements universitaires, ça vient un peu avec le territoire. Là, je veux dire, moi, j'étais étudiante à un moment donné comme tout le monde. Puis là, il y a un prof que t'aimes pas. Là, tu dis c'est un malade, c'est un ci, c'est un ça. Ça reste comme ça. Là, je veux dire, pourquoi ça s'est transformé en ce que vous qualifiez là, quasiment de campagne woke ou je sais pas comment qualifier ça là.
Ben, je sais pas si j'emploierais le mot là, nécessairement, mais c'est
Il est employé beaucoup dans l'article, en tout cas, le mot woke puis le wokisme puis toutes ces affaires-là.
Oui, il y a pour moi, il y a une radicalisation d'une forme de justice sociale. Je pense qu'on peut la qualifier de woke, effectivement. Le problème que moi j'ai vécu, c'est qu'à partir du moment où j'ai écrit ces articles, il commence à y avoir des dérives qui sont progressives. Donc, on passe du colonialisme à l'idée que vous êtes contre l'équité, contre la diversité. Puis là, après ça, on tombe dans vous êtes sexiste, misogyne, transphobe. Après ça, les accusations pleuvent à l'effet que, par exemple, j'ai fait pleurer des étudiants de maîtrise et de doctorat.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez fait pleurer
Je sais pas. Si moi, j'ai pas vu d'étudiants pleurer parce qu'ils ont lu mes articles, mais c'est un reproche qu'on m'a certainement fait. Enfin, moi, je me questionne beaucoup. Si des étudiants se mettent, sont si déconstruits en étant exposés à un autre point de vue que j'avais pas trouvé, enfin, pour les avoir relus, mes textes, je les trouve pas du tout radicaux.
Mais le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui vous disent on trouve que vos textes sont radicaux, est-ce que ça vous a pas amené un peu à vous remettre en question dans une certaine mesure?
Non, vous savez, madame, moi, je suis psychologue. Je me remets en question au quotidien.
Okay.
Oui, je me remets en question, forcément. J'avais aussi des gens qui m'ont dit, puis ça, c'était comme un élément qui était fortement dérangeant pour moi. Les textes sont parus. J'ai des étudiants qui m'ont dit merci. On pensait que vous pensiez comme tout le monde d'autre, puis on voit que finalement, on peut se confier. Donc là, j'ai commencé à recevoir des témoignages écrits, des étudiants qui sont venus me raconter ce qui se passait dans leur salle de cours, des histoires de censure. Il y en avait amplement. Des situations qui, à mon avis,
Mais tout le monde se censure à l'université. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me censurer dans des cours pour des raisons de civisme, pour des raisons que, je sais pas, c'est des conditions.
On parle pas de ça. On parle pas de ça du tout. On parle de théories qui sont censurées. Mm. On parle de d'étudiants qui veulent questionner des théories qui sont censurées.
Mais je repose ma question M. Drapeau. Vos supérieurs, ils ont dit quoi? Êtes-vous allé les voir?
Oui, en fait, j'ai fait suivre jusque tout en haut de l'université, et puis, c'est tout. Il n'y a pas...
C'est tout.
J'ai pas eu de retour. Je lisais dans l'article d'Émilie Dubreuil qu'une étudiante avait... Moi, une étudiante, j'oublie, avait fait une plainte à l'Ombudsman pour laquelle il ne semble pas y avoir eu de retour non plus. C'est un peu ce que j'ai vécu. Donc, on dit... On accuse réception, et puis c'est tout. Mm. Et puis les étudiants, forcément, ils finissent leur diplôme, puis après ça, ils s'en retournent. Donc, on les perd, ils continuent avec leur petit bonhomme de chemin. Donc, ces étudiants-là n'ont pas été rencontrés par la direction, parce que je sache. Moi, j'ai pas été rencontré par la direction. Il n'y a pas eu de suivi auprès de ces étudiants-là. Je pense pas qu'il y ait eu d'enquête auprès du vécu de ces personnes-là. Non. À ma connaissance, non.
Bon, j'ai souvent parlé avec des professeurs là, de tout acabit, là, Monsieur mm-hmm. Drapeau, de la question de la culture de l'annulation dont vous prétendez être victime. Puis tu sais, les professeurs à qui j'ai parlé, en grande majorité, me disent qu'ils enseignent exactement les mêmes choses qu'avant, les mêmes livres, utilisent les mêmes mots, mais ont peut-être un peu changé leur façon d'aborder les choses avec les étudiants. Bon, pas à cause qu'on est en 2022, parce qu'il y a certaines sensibilités. Mm-hmm. Vous, votre réflexion par rapport à tout ça, elle est où?
Je suis d'accord. Écoutez, la radicalisation dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne pas pour moi. Je veux dire, un professeur qui me dirait que je peux tenir des propos haineux, on s'entend, ou même des propos qui créent un inconfort pour aucune raison. Je veux dire, c'est une radicalisation de la liberté académique. Je trouve que c'est indéfendable.
Mais je trouve ça bizarre de dire que ça crée un inconfort pour aucune raison. C'est une question de perception, encore une fois. C'est assez subjectif là, de dire votre inconfort, il n'est pas légitime, il n'y a aucune raison.
Oui, non, le terme que j'aurais peut-être dû employer, c'est blessant. Donc, des termes blessants.
Okay.
S'il n'y a pas de contexte. Mais l'inconfort, c'est justement là, ça, c'est la pierre d'achoppement de tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un étudiant dit « je suis inconfortable », puis ça, je l'ai entendu dans mes cours, ça voudrait dire en principe que la conversation devrait prendre fin. Ce avec quoi je suis pas d'accord.
Je comprends.
Mais vous savez, pour enchaîner là-dessus, en psychologie, on traite habituellement toujours avec ces sensibilités-là. Donc, on aborde des thématiques. On peut penser à l'abus sexuel, par exemple.
Oui.
L'abus des enfants. Il y a plein de thématiques. Le viol, l'agression sexuelle, il y a des thématiques auxquelles on est confronté et qu'on doit enseigner aux étudiants. Il faut le faire avec beaucoup de sensibilité. Donc, on arrive à naviguer ça. Mais là, on n'est plus là-dedans.
Donc, vous avez l'impression que vous faites preuve de sensibilité. C'est ce que je comprends.
Ça fait partie de... Moi, j'ai jamais vu de psychologue qui arriverait à communiquer des concepts qui sont parfois très douloureux, parfois qui sont atroces, parfois qui sont révoltants. Vous savez, quand on parle de violence sexuelle, parfois d'abus d'enfants, c'est révoltant. Mm. Ça prend un certain doigté pour pouvoir en parler. On peut pas garocher ça à la tâche des gens. D'autant plus qu'il peut y avoir dans la salle des étudiants qui ont vécu une historique qui est en lien avec ces problématiques.
Okay, je comprends. Je veux qu'on parle du militantisme parce que vous accusez en quelque sorte l'université de faire preuve d'un certain militantisme. Là, je ne sais pas si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, d'avoir un agenda de justice sociale et tout ça. Mais en même temps, j'avais envie de vous dire, M. Drapeau, puis tu sais, tout le monde en a un agenda. Tu sais, moi j'en ai un, vous en avez un, qu'il soit conscient ou inconscient. Tu sais, puis d'ailleurs, vous me le dites là, vous écrivez des lettres ouvertes. Vous avez écrit dans le Journal de Montréal en novembre 2021 un texte qui s'appelle « Oui, la vendeuse de Shayton existe encore » pour parler de vos collègues qui ne parlaient pas un mot de français. Vous en avez une approche militante de certains dossiers. Puis moi, quand je l'ai lu votre lettre, j'étais un peu choquée. Je vais être super honnête. Là. Je me dis mais oui, mais ces profs-là, c'est une université anglophone. Ils viennent de partout. C'est une université de calibre international. C'est normal d'avoir des profs qui viennent d'ailleurs, qui enseignent leur matière en anglais. Là. Ils ont été embauchés pour leur expertise, pas pour la langue qu'ils parlent. Ils sont pas hostiles au français. C'est pas ça. Donc, tu sais, tout le monde a un agenda militant. Comprenez-vous ce que je veux dire?
Oui, je comprends très bien, mais je pense qu'on confond. Il y a deux questions dans ce que vous me dites. Donc, d'une part, quand je parle du militantisme, je pense que le terme que j'emploierais plus tôt, c'est plus une inertie au niveau de l'université. Donc, je pense que c'est un terme qui rendrait mieux compte de ce que je vois.
Mais vous parlez de militantisme quand même, là.
Oui, militantiste chez des étudiants, militantiste chez des collègues, mais je pense que ce que je reproche, moi, à certaines universités, puis là, on le voit avec la commission Cloutier et puis les discussions qui ont eu lieu au cours des deux derniers jours, c'est plus l'inertie des directions universitaires. Donc ça, c'est pas tout à fait la même chose. Par ailleurs, moi, je pense que le problème, c'est pas nécessairement la juxtaposition qu'il peut y avoir, puis même l'affrontement, parfois, ça peut être violent aussi entre différents points de vue. L'université, c'est un endroit pour débattre. Aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'on commence à interdire puis à censurer. Là, ça fonctionne plus pour moi. Ça fonctionne plus. Pour ce qui est de la langue, le reproche que je faisais, en fait, le reproche, c'est faut le mettre en contexte, c'était une réplique à M. Liebman. Donc, mon expérience est clairement différente de la sienne. C'était l'objectif de l'article. Ensuite de ça, on peut se poser la question quand même. Je reproche pas à un collègue qu'on fait venir des États-Unis de pas parler français, mais après plusieurs années, s'il n'a pas fait un effort pour comprendre la société dans laquelle il évolue, et si l'institution elle-même ne le soutient pas pour faire ça, ça, je le dénonce haut et fort.
Là, vous dites que le stress engendré par cette situation-là est tel que ça vous a poussé à aller en congé maladie. Vous avez déposé aussi une plainte contre un collègue de votre programme. Là, vous l'accusez de vous porter préjudice en répandant des mensonges. Et c'est quand même documenté, cette chicane-là, entre vous et votre collègue, là, le journal Métro, entre autres, qui a fait un article là-dessus aux alentours là, du 24 juin 2021. Le conflit, là, si je peux me permettre de résumer ainsi, c'est par rapport à la venue d'un conférencier qui était, selon les dires de plusieurs transphobes, quelqu'un qui procédait à des thérapies de conversion auprès de jeunes personnes qui s'identifiaient comme transgenres. Votre collègue vous a demandé d'aider à annuler cette conférence-là. Vous n'avez pas voulu. Pourquoi?
Parce qu'on est à l'université. Je pense que si cette personne-là, ce collègue est en
désaccord thérapies de conversion, monsieur des thérapies de conversion.
Non, mais là, je vous corrige tout de suite, madame. Quand j'étais sur le conseil d'administration de l'Ordre, j'ai fait partie de ceux qui ont voté pour qu'on interdise. Je suis contre ça. C'est pas ça la question du tout. Faut pas confondre. La question, c'est ici, puis d'autant plus que cette personne-là dont il est question, par après, j'ai fait mes petites recherches parce que je le connaissais pas d'avance, ce chercheur-là. Okay. C'est pas vrai qu'il faisait la promotion des thérapies de conversion. Donc, c'était une personne, selon mon collègue, qui était transphobe. Okay. Moi, je pense que si y a un enjeu à débattre, qu'il puisse se présenter et en débattre. C'est ma position.
Mais c'est dur de débattre sur la transphobie, de débattre sur le racisme ou sur le sexisme. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas un débat. On devrait pas laisser des gens qui font la promotion de ces idées-là aller pouvoir s'exprimer dans un établissement aussi prestigieux que l'Université McGill. Vous pensez pas?
Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas une personne qui vient de nulle part, c'est une personne qui vient d'une institution tout aussi prestigieuse, sinon plus que l'Université McGill. Donc, il venait de Camille, je suis un chercheur. Comme je vous dis, je le connaissais pas à ce moment-là.
Okay.
Donc, c'est une personne qui avait des positions. J'ai cru comprendre après mes recherches rapides, parce qu'on est loin de mon sujet d'expertise. Il faut le comprendre.
Oui.
Donc, je voulais comprendre un peu, mais on est loin de mon sujet d'expertise. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une mise à pied de cette personne-là parce qu'il y avait eu des accusations de transphobie qui ont été démenties par après et cette personne-là a été compensée. Donc, c'était faux, ces accusations-là. Mais encore là, moi, je pense que dans un milieu universitaire, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que le wokisme, pour l'appeler ainsi, a sa place à l'université aussi. Il faut qu'on puisse en débattre. Le problème, c'est
mais c'est drôle, j'ai l'impression que ce que vous me dites maintenant, c'est à milieu de ce que j'ai pu lire dans l'article d'Émilie Dubreuil. Avez-vous réfléchi depuis ce temps-là? Ben, je ne sais pas. Je vous sens plus ouvert sur ces questions-là.
Non, j'ai toujours ouvert, mais je pense que l'article s'attend beaucoup plus à ce que j'ai pu vivre. Ce que j'ai pu vivre, pour moi, c'est inacceptable.
Oui.
Tout au cours des dernières années, écoutez, comme je pense l'avoir mentionné, j'ai fait des invitations à discuter et à débattre à mes collègues que je considère pour certains radicalisés. J'ai pas de suite. Donc, on peut pas dire que je suis pas ouvert à la discussion. C'est pas ça du tout. Ce que je reproche, c'est pas la position de mes collègues, c'est la radicalisation et le fait que ça mène à des excès. C'est ce que je reproche.
Mais c'était super intéressant de discuter avec vous, Monsieur Drapeau. C'est ça qu'on devrait faire, discuter au lieu de se camper dans nos positions. Docteur Martin Drapeau, qui est prof à McGill et qui se dit victime de la culture du bannissement. Merci.
Merci à vous, madame. Je vous souhaite une bonne journée.
Bye bye.